gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Du gong. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans La Causerie sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org avec ce soir à la technique Clara.
Bonsoir.
Autour de la table Jean-Yves.
Bonsoir. Et Fab qui a fait cette ouverture.
Merci, bonsoir à tous et à toutes. Et donc si vous voulez nous joindre, ben, c'est tout simple. Vous nous envoyez un mail, c'est le plus simple, à lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com, ou alors vous pouvez nous écrire avec du papier, et ça, ça se passe à l'adresse de Radio Canu, hein, vous la cherchez, vous la trouvez, vous mettez la causerie, et sinon vous pouvez aller sur les blogs de Radio Canu, à blogs.radiocanu.org/lacauserie, et là vous trouvez bah, le blog de la causerie, avec toutes les émissions depuis le début, de la 1 à la 285e qui sera mise demain. Bah oui, puisque c'est celle de ce soir, donc forcément. Et après ça, bah, si ça ne vous suffit pas et que vous n'êtes pas gavé de causerie, vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook, voilà. Mais là, allez-y juste, il y a les mêmes liens que sur le blog. Donc allez sur le blog, ça va plus vite, en fait, voilà.
Et eh bien ce soir, petite causerie, et c'est Fab qui, c'est Fab qui mène la danse, et tu commences par la réforme ou
la destruction plutôt.
Hein. Des retraites.
Oui, voilà. Alors, pas à venir vraiment, parce que c'est plutôt à venir dans deux jours, vu que c'est là que ça va se terminer. Parce qu'en fait, je vous en avais déjà parlé, on est en phase de discussion, comme dirait M. Macron, sur le régime des retraites. Alors, il faut se rappeler un petit peu, revenir un petit peu en arrière. Cette histoire de retraite, ça fait des années qu'en France, on essaye de modifier le système des retraites. Alors évidemment, quand on essaye de le modifier, quand je dis ça, c'est pas vraiment les salariés, c'est plutôt le patronat hein, qui cherche à le modifier depuis des années. Je vais vous rappeler donc le premier grand mouvement contre les réformes des retraites, c'est 1984, puis 86, puis 95, qu'il a été victorieux. Et on est aujourd'hui en 2018, et comme vous le voyez, le patronat a du temps. Parce que c'est un petit peu ce qui caractérise les capitalistes, c'est qu'ils ont de l'argent et du temps. Donc en fait, ils reviennent régulièrement et nous remettent régulièrement dans les dents leurs pseudo-réformes qui sont en fait plutôt une envie de récupérer une part du gâteau. On va être très clair. Hein. Donc je vais quand même poser un peu de contexte. Ce qui a changé ces derniers temps, et que peu de gens en fait ont mesuré, c'est que la CFDT est devenue le premier syndicat de France dans la fonction publique et dans le privé. C'est-à-dire qu'elle est passée devant l'historique CGT, qui était le premier syndicat depuis sa création en fait, hein, 1895. Donc en fait, on a l'impression comme ça que c'est pas grave, sauf qu'en fait c'est une petite révolution dans le paysage syndical français quand même, mine de rien, parce que ça veut dire que les salariés ont majoritairement voté pour un syndicat vu et qui se présente comme d'accompagnement, c'est-à-dire réformiste d'accompagnement, hein, c'est eux-mêmes qui le disent, c'est pas moi, donc en gros qui ne combat pas mais qui va essayer plutôt d'amender les propositions patronales. Je le dis comme ça, mais c'est en gros ce que fait la CFDT généralement. Le combat, ils y viennent, mais vraiment à l'extrême. Mais surtout, c'est un syndicat qui ne comprend pas la notion de rapport de force, hein, ils le disent. Ils disent que pour eux, le rapport de force, ça a d'abord du dialogue social, puis on installe un rapport de force si besoin. Ce qui est l'inverse, en fait, des syndicats dits révolutionnaires, hein, CNT, CGT, FO, qui sont plutôt dans l'idée de dire on installe un rapport de force avant d'aller en face du patron. Macron, ce qui est à mes yeux beaucoup plus logique parce qu'on n'arrive pas à désarmer, tout simplement. Donc en fait, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, l'alliance CFDT-CFTC, donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les CFTC, c'est les travailleurs chrétiens. Qui est renaquis de ses cendres, je ne sais pas comment on dit, ces 10 dernières années, un petit peu poussé au cul par la manif pour tous, hein, ne nous mentons pas. Et la CFE-CGC, donc ça c'est les cadres, en fait quand ils s'allient, en fait maintenant ils ont un poids suffisant pour dialoguer directement avec le patronat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'à eux trois, en fait, ils ont assez de pourcentage de représentativité par rapport aux élections professionnelles pour pouvoir signer tout et n'importe quoi avec le patronat sans pouvoir être contrés. C'est ça en fait qu'il faut voir, c'est-à-dire que cette bascule et ce changement, c'est ça que ça a instauré. Donc forcément, le patronat, il est plutôt content, hein, parce que du coup, il a des interlocuteurs autour de la table qui sont un petit peu moins emmerdants que quand il avait la CGT numéro 1 et FO qui pouvaient faire barrage à toutes les propositions, parce qu'ils avaient une masse suffisante, ce qui n'est plus le cas.
Bah oui, et puis le positionnement de chacun est différent. La CFDT n'est pas contre le changement capitaliste et libéral.
Exactement. Bah, genre, je vais y venir. Hein. Ah, bon, ça, c'est exactement de ça dont on va parler. Donc du coup, bah, ça donne quoi? Alors, je vous avais déjà parlé de la réforme des retraites à venir, hein, c'était il y a quelques temps de ça. Je vous avais dit que c'était une grosse année de réforme. Moi, j'aime pas ce mot-là. Hein. Je trouve que c'est plutôt de la destruction, du détricotage. Sauf que là, maintenant, on rentre dans le dur et tout s'accélère, ne serait-ce que parce que théoriquement, la dernière réunion sur le sujet est censée se tenir cette semaine. Alors, ils ne savent pas si ce sera sur 1, 2, 3 ou 4 jours. Vous voyez, ils se laissent un peu de marge. Mais en tout cas, le gouvernement l'a dit clairement, il faut que ce soit finalisé maintenant. Sinon, c'est le gouvernement qui reprend la main et qui impose les nouvelles règles. Donc voilà. Alors, pourquoi le gouvernement peut faire ça? Je vous rappelle que maintenant, les retraites sont financées par la CSG et que la CSG est collectée par le gouvernement. Donc, quand vous êtes le payeur, vous faites à peu près ce que vous voulez. C'est pour ça, d'ailleurs, que les syndicats un petit peu costauds, d'un point de vue idéologique, je dirais, d'un point de vue de garder une autonomie ouvrière, comme on disait, une autonomie des salariés, et ben en fait, eux étaient contre la CSG, parce qu'en fait, ils disaient non, c'est pas, il faut pas que la caisse elle soit tenue par l'État, parce que sinon l'État fera ce qu'il veut de nous. À l'époque, beaucoup de gens avaient dit, mais non, vous êtes parano. Bah, preuve que non, on y est. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh ben, à l'ombre des gilets jaunes, comme l'a dit notre ministre, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre du Travail, qui dit à l'ombre des gilets jaunes, le gouvernement continue à travailler, ce qui sous-entend, c'est quand même pas eux qui vont nous empêcher d'avancer. Je laisse les gilets jaunes réfléchir à cette phrase. Mais c'est assez intéressant de voir qu'en fait, ils se servent finalement de tout ça aussi, eux, comme généralement le font les gouvernements, comme cache-sexe, parce que ça leur permet finalement de passer des choses pendant ce temps, quand on a les yeux focalisés sur autre chose. Alors, je dis pas que les gilets jaunes, ils font exprès, hein, c'est pas du tout mon propos, c'est plutôt de dire, bah, on voit que systématiquement, en fait, dans les gouvernants, dans le patronat, on a le réflexe d'utiliser une crise pour aller plus loin. Et puis, bah, pendant que les gens regardent pas, ça passe mieux en général.
Et ça, sous tout gouvernement, de toute étiquette.
Hein, ah oui, oui, oui.
J'ai le souvenir que les socialos avaient fait pareil.
Exactement. En fait, c'est une technique, une tactique qui est employée de gouvernants, hein, parce que c'est pratique. Voilà. Donc du coup, sur la table, déjà la première chose qui a été faite et qui est aujourd'hui actée, c'est qu'il n'y aura plus qu'un seul régime de retraite unique. Donc c'est l'abolition et la disparition des 42 régimes différentiels et non pas spéciaux, comme on l'entend partout. Parce que non, ce ne sont pas des régimes spéciaux, ça c'est un terme qui a été inventé par le patronat. Ce sont des régimes différentiels, c'est-à-dire où on estime que des métiers étaient soit plus difficiles, soit amenaient le fait de devoir ou de pouvoir partir plutôt à la retraite. C'est de là que sont nés les fameux régimes différentiels, dits spéciaux dans la bouche de tous les journalistes aujourd'hui. Et en fait, je vous rappelle que ces régimes, ils sont issus des luttes sociales. C'est-à-dire qu'au départ, c'est dans ces corps de métier, on s'est battu pour avoir des capacités, des possibilités à partir plutôt à la retraite. Alors, je vais vous donner un régime différentiel, donc spécial, qui a été aboli. C'est celui des éboueurs. Alors les éboueurs, je ne sais pas si vous le savez, mais ils avaient le droit de partir à la retraite à 57 ans. Ça tombe bien parce qu'en moyenne, ils meurent à 62. Donc en gros, c'était bien de partir à 57 ans. Ben, en fait, aujourd'hui, alors, c'est horrible hein, ce que je dis parce que c'était vraiment une compensation assez mineure, hein, mais on était quand même parti dans l'idée que c'était quand même mieux qu'ils aient un peu de retraite. Et ben, en fait, les éboueurs, ils perdent leur régime dit spécial hein, par le gouvernement. Et en fait, ben, aujourd'hui, ils vont devoir le renégocier. Parce qu'en fait, ça abolit de fait tout ce qui existait. Alors c'est intéressant parce que ce qui a déjà été expliqué par le gouvernement, c'est qu'il pourrait y avoir des régimes différentiels, pas de problème. Mais ils devront être, un, négociés branche par branche, donc c'est-à-dire qu'il faut repartir de zéro, et deux, il faudra surtout qu'ils soient adossés sur du privé, parce qu'ils ne pourront plus être adossés sur la caisse de retraite générale. Donc ça revient en gros à dire, vous pourrez avoir des régimes spéciaux, mais on va les adosser au privé. Donc, vous voyez l'arnaque qu'il y a derrière quand même. Je vous rappelle que sur les 42 régimes spéciaux, il y en avait 40 qui étaient à l'équilibre, c'est-à-dire qui étaient plus à l'équilibre que le régime général de retraite. Et surtout, les deux régimes qui n'étaient pas à l'équilibre, c'était le régime des intermittents, mais pour une raison simple, c'est parce qu'en fait, les agents du spectacle ne payent pas, donc c'est les patrons du spectacle ne payent pas, on sait que ça vient de là. Et le deuxième, le régime spécial des élus. Et voilà. Donc c'est très intéressant de voir que finalement, on a aboli tous les régimes dits spéciaux pour des gens qui simplement ne payaient pas. Voilà. La deuxième chose, donc l'autre grande destruction, c'est le passage d'un régime généralisé par répartition à un régime par points. Alors la différence, ça c'est acté aussi, hein, ça va être voté, ça va être signé, ou voté ou signé, parce que ça dépend, soit c'est signé entre les entre guillemets partenaires sociaux, j'ai horreur de ce mot-là, soit c'est voté à l'Assemblée nationale. Alors je vous rappelle que le premier, c'était chacun selon ses besoins, chacun selon ses moyens. Ça c'est la répartition, c'est-à-dire qu'on prend une part de votre salaire. Non, ça c'est pas vrai, c'est le patron qui dit ça. C'est qu'en fait, on met une cotisation sur votre salaire que doit s'acquitter votre patron. Maintenant, on l'a mis sur le dos des salariés aussi, mais normalement c'était à votre patron de le payer. On fait un gros pot commun et on fixe une limite maximale de retraite et on dit tout le reste, on le répartit, c'est le système de répartition, pour que tout le monde à la retraite ait quelque chose d'à peu près décent pour vivre. Ça, c'était l'idée du régime par répartition. Il n'est pas parfait. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de quoi vivre à la retraite. C'est pas, voilà, c'est pas magique. Ça, c'est parce qu'on a décidé de ne pas répartir autrement. C'est ça. Sauf que le régime par répartition assurait à toute personne qui a travaillé, ne serait-ce que 2 ans dans sa vie, de toucher quelque chose à la retraite. Ça, c'est le régime par répartition. Là, le régime par points, c'est quelque chose de totalement différent. Et donc, je vous rappelle, ça va être acté, hein, parce que les 3 syndicats, CFDT, CFTC, CFE-CGC, ont dit qu'ils étaient pour. Donc, en fait, le régime par points, c'est l'idée qu'on va partir que chaque salarié, chaque personne qui travaille, va engranger un certain nombre de points en fonction de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui allez, c'est votre carrière qui va faire votre retraite uniquement.
Eh ouais, si t'es pas un battant.
Voilà, exactement. C'est cette idée-là qui est derrière et qui est sous-jacente. Mais tout ce qui est dangereux et ce qui est grave, ça veut dire que, en fait, tous les gens qui ont des petits métiers, c'est-à-dire des métiers peu payés, bah, auront forcément une petite retraite. Aujourd'hui, en fait, par le régime de répartition, on sait que la retraite des gens qui ont les plus petits métiers est compensée, c'est-à-dire qu'on donne un petit peu plus que s'ils touchaient que ce qu'ils avaient par rapport à leur salaire. C'est le principe de la répartition. Pourquoi ? Parce que sinon, ça veut dire, j'ai pris un exemple très concret, quelqu'un qui serait au SMIC toute sa vie toucherait sur le régime général de retraite à la retraite 535 €. Je ne parle pas des régimes complémentaires en plus. Ça, c'est sa base. Aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, il touche 730 €. L'idée, c'est de dire, bah, par la répartition, on donne un petit peu plus aux gens pour qu'ils puissent, à la retraite, vivre un peu mieux que s'ils étaient juste avec leur base. Bah, avec le régime par points, en fait, c'est, vous allez toucher exactement ce que vous avez cotisé. Donc, en fait, vous allez, bah, quand vous êtes pauvre, rester encore pauvre et plus pauvre. Voilà, c'est ça l'idée. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est que dans ce qui a été mis en place et ce qui a été présenté, c'est qu'en fait, vous avez tout un tas de trucs qui sautent, qui aujourd'hui, dans la retraite par répartition, étaient compensés. C'est-à-dire, par exemple, si vous étiez au chômage, vous aviez une compensation à 50%. C'est-à-dire, votre trimestre était compensé à 50%. C'est-à-dire qu'on versait 50% dans la caisse de retraite par répartition. Aujourd'hui, par le régime par points, a priori, ben, pour l'heure, il n'y a pas ce système-là. C'est-à-dire que si vous êtes au chômage, ben, vous ne cotisez pas de points. De la même façon, a priori, moi je dis bien a priori parce que j'ai vu plusieurs documents et j'en ai vu aucun qui me dit ce que tu racontes est de la merde, donc si vous en avez un, vous l'envoyez, lacauserie@gmail.com, je suis preneur. A priori, sont retirées aussi toutes les gardes d'enfants, les longues maladies, tout ça en fait n'emmène plus de cotisation. Donc en fait, ça fait que si dans votre vie vous avez malheureusement une longue maladie, qu'en plus vous avez fait le choix de vous arrêter pendant 3 ans pour faire du congé parental, ben vous pouvez potentiellement perdre 5 ans, 10 ans de points. Voilà, qui donc ferait que ben, à la retraite, vous allez avoir encore moins parce que vous aurez cotisé moins de points. En fait, c'est un petit peu comme un jeu, hein, c'est-à-dire vous cotisez des points, puis quand vous avez assez de points, vous touchez des sous. Voilà, c'est, et puis on va convertir vos points en sous. C'est ça l'idée, en fait, à la fin. Donc, vous pouvez cumuler un certain nombre de points et c'est ce nombre de points qui fera votre truc. Alors, est aussi acté le fait que la valeur du point sera calculée en fonction de votre âge de naissance et de votre durée de vie potentielle et théorique, à votre âge de départ à la retraite. Voilà. Je vous laisse un petit peu imaginer le bordel que ça va être. Donc c'est bien un régime par points et c'est bien donc un régime qui va tirer vers le bas. Alors, il y a une baisse générale des pensions qui va se créer, avec une raison simple, c'est qu'en fait, ce qu'on craignait, bah, c'est pire que ce qu'on craignait. C'est-à-dire, je dis le « on », c'est ceux qui luttent contre ce système-là. Au départ, on avait l'impression qu'ils allaient passer au régime par points en gardant la même base de calcul. Vous savez, les 25 meilleures années dans le privé ou les 6 derniers mois dans le public. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'ils font. Bon, non. Ils passent en régime par points et ils vont calculer les points sur l'ensemble de votre carrière. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez commencer à votre salaire le plus bas jusqu'au moment où vous partez à votre salaire le plus haut si vous avez une carrière linéaire, bah, en fait, avant, on enlevait les premières années, ce qui fait que vous aviez une retraite un peu rehaussée parce qu'on prenait vos 25 meilleures années. Ou alors, tout simplement, si vous aviez changé d'entreprise et que vous aviez 25 bonnes années qui étaient avant l'endroit où vous vous trouvez là, bah, en fait, on prenait quand même les meilleures années pour dire c'est ça qui nous sert de base de calcul, donc ça rehaussait votre retraite. Ben là, en fait, c'est fini. On prend tout. Donc, comme on prend tout, ben, si par malheur, ben, encore une fois, vous avez été malade, ou si vous avez connu le chômage, ou si des choses comme ça, ben, ça va diminuer d'autant et gréver d'autant vos points. Vous voyez ?
Oui, mais de toute façon, la logique, c'est que... c'est qu'on file de moins en moins de pognon aux salariés, en action, enfin, actifs, ou à la retraite, ou chômeurs. Et que ce qui veut dire moins de fric... pour ceux qui produisent, ça veut dire plus de fric pour ceux qui en ont déjà et qui vivent du travail des autres.
Donc si vous faites le calcul, exactement, et si vous faites le calcul en fait entre les périodes dites de non-travail selon ce nouveau système, si vous faites le calcul aussi avec les arrêts maladie, le chômage, la moyenne, tout ça, et bien en fait, on estime qu'en moyenne, les pensions de retraite vont être diminuées de 15% pour les plus pauvres. Par contre, elles vont augmenter de 10% pour les gens qui touchent plus de 4 500 € par mois.
Pardon.
Oui, c'est logique, parce que comme on n'est plus par répartition, en fait, jusqu'à maintenant, on écrêtait. C'est-à-dire qu'on disait pour les gens qui avaient des gros salaires, la retraite, en fait, tu ne vas pas toucher exactement, tu vas toucher un petit peu moins pour pouvoir permettre de donner un peu plus aux plus pauvres. C'était l'idée de la répartition. Là, c'est fini. Donc, en fait, les plus pauvres voient leur retraite baisser de 15% et les plus riches, a priori, augmenter de 10%. C'est merveilleux. Ça s'appelle les vases communicants. Donc ensuite, pour compliquer le tout, il semble que soit retenu un drôle de système de calcul, en fait, finalement, qui ne tiendra même pas compte de certaines primes, et notamment des primes de poste. Et ça, c'est juste pourri. Parce que ça veut dire que si vous êtes un salarié qui travaille en 3-8, 5-8, de nuit, le week-end, tout ça, et que vous touchez une prime, parce que vous avez une part de votre salaire, ça peut aller jusqu'à 35% de votre salaire, hein, dans certains cas, qui est sous forme de prime, eh ben, on n'en tiendra pas compte. On ne prendra pas cette prime dans le calcul de votre retraite. Et ça, en fait, c'est hyper violent. Parce que ça veut dire pour quelqu'un qui va arriver à la retraite après avoir travaillé en équipe toute sa vie, eh ben, en fait, il va perdre non seulement ses 35% de prime, plus encore les 15% de pertes dont je vous ai donné avant. Je vous laisse imaginer un petit peu le choc que ça va faire en arrivant à la retraite. Alors, il y a l'histoire de l'âge de départ aussi, hein, parce qu'on entend beaucoup parler de l'âge de départ. Alors, le ministre, je ne sais pas si vous avez vu, il est venu à la télévision. Je ne sais même plus son nom, j'ai oublié de le noter. Il n'est pas très connu. Hein. Il est venu à la télé, il a dit « Oulala, mais je vous assure, je vous jure, sur la tête de ma mère, on restera à 62 ans. » Il l'a pas dit comme ça, ce qui parle mieux que moi, mais c'était pas loin de ça, quoi.
Ils ont le bon verbe.
Ouais, mais c'était drôle parce que vraiment, il y avait un côté un peu comme ça. C'est-à-dire, même s'il parlait bien, il y avait un vrai côté, je te jure, je crache par terre et dans ta main, hein, quoi, ça va. Alors, le problème, c'est le tout petit problème, c'est qu'en fait, déjà, je vous rappelle que les complémentaires retraites viennent de passer à 63 ans pour être déclenchés. Donc, dire on peut partir à 62 quand on part en n'ayant pas de complémentaire, c'est juste déjà du foutage de gueule. Mais ça, il le sait, le ministre, c'est pour ça qu'il souriait en le disant. Hein. Mais surtout, comme dirait la CFDT, comme les pensions seront diminuées de 15% en moyenne, les gens peuvent partir à 62 ans, ça passe. Oui, en gros, si on baisse les pensions de retraite, les gens peuvent partir plus tôt parce que le régime reste bénéficiaire. Mais c'est complètement con comme logique. Ça revient à dire, tiens, si on payait les gens deux fois moins, en fait, finalement, on pourrait embaucher moins de monde parce qu'on pourrait donner plus aux actionnaires. Un peu le même principe, vous voyez. voilà. Sauf que le patronat, lui, il souhaite que nous travaillions plus longtemps. Parce que clairement, il l'explique et il le dit. Comme le patronat vient d'hériter, grâce à M. Macron, de la formation professionnelle à 100% et de la formation technique, c'est-à-dire les lycées professionnels et autres, c'est maintenant quasiment entièrement aux mains du patronat, lui il dit, attendez, si j'investis, il faut que j'ai des retours sur investissement. Donc il faut que les gens ils travaillent plus longtemps, parce que je veux garder des seniors. Des seniors, des gens, c'est-à-dire des gens qui sont bons dans leur métier, vous voyez, mais que je paye, mais qui sont bons. Donc le patronat, il a dit, moi, à fond, il faut que les gens ils restent. Alors du coup... Il y a des propositions qui sont faites par les syndicats et par le patronat. Alors, je vais vous en lire quelques-unes parce que moi, elles m'ont fait bondir. Mais voilà. Nous pourrions opter pour une valorisation du point au-delà de 62 ans. Imaginons qu'un point vaut 1 euro à 62 ans. Il vaudrait 1,10 euro après cet âge. Voilà, vous dites, le mec qui a dit ça, il est au MEDEF. Ben non, c'est le négociateur de la CFTC. C'est monsieur Pascal Coton. Eh oui, il est sympathique ce monsieur. Hein. Voilà. Alors, j'en ai une autre. Pour nous, le plus simple serait de récompenser les années supplémentaires de la même façon pour tout le monde. Donc lui, déjà, il dit, attention, hein, on ne va pas commencer à faire des trucs différents. Hein. Nous ne sommes pas favorables à des coefficients multiplicateurs qui varieraient en fonction du nombre d'années de travail supplémentaires effectuées. Donc en gros, c'est linéaire. Hein. C'est, tu restes un peu plus, c'est linéaire. Mais qui c'est qui a pu dire ça? Bah, c'est le patron de la CGPME, monsieur Éric Chevet. Vous voyez, c'est marrant comme des fois le patron de la CGPME, il est moins hargneux que le gars de la CFTC. C'est un peu étrange, mais voilà. Une autre possibilité évoquée par la CFDT serait d'adapter ses coefficients majorants en fonction du niveau de pension. Alors attention, parce que là, c'est un vrai calcul dans la tête. Ainsi, une personne touchant une faible retraite pourrait voir une valorisation plus importante de ses points qu'une personne ayant une pension plus élevée. Considère donc Frédéric Sève, le négociateur de la CFDT. En gros, je vous le résume, plus t'es pauvre, plus tu travailleras longtemps. Parce que c'est exactement ce qu'il est en train de poser sur la table. Parce qu'en gros, il dit, si t'as les moyens de partir, bah tu pars. Mais comme si t'es pauvre, bah, falloir que tu bosses plus, parce que si tu veux gagner plus de points, va falloir rester. Donc c'est juste merveilleux. Je vous rappelle que c'est un syndicat en théorie, hein, la CFDT. Donc je pense qu'ils se sont perdus en route. Donc en gros, si t'es pauvre, t'as qu'à travailler plus et plus longtemps, et tout va bien se passer. Hein, voilà. On va avoir une retraite décente. Je rappelle juste comme ça, hein, les cadres en moyenne meurent autour de 81 ans. Les ouvriers en moyenne meurent autour de 71 ans. Il y a 10 ans d'écart entre les cadres et les ouvriers. Ce serait juste temps de s'en rappeler, ce serait peut-être temps de le rappeler aux gens qui négocient là-haut. Vous voyez, parce que
C'est peut-être que leurs bases sont pas forcément de ces rangs-là.
Ils doivent être plutôt cadres, hein, je pense.
Ouais, c'est
ça
en
doit
fait.
Aider un petit
bah,
peu.
Ouais, en fait.
Voilà. Donc, on voit, cette réforme, c'est une attaque claire contre les plus pauvres, au final. En fait, en réalité, c'est les plus pauvres, les salariés les plus précaires qui sont attaqués directement, et notamment les femmes. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on passe à l'as, hein, on fait comme si ça n'existait pas. Je vous rappelle qu'en France, les femmes sont moins bien payées en moyenne que les hommes. Ça peut aller jusqu'à 23% du salaire, quand même, c'est quand même pas une paille. Et surtout, ce qui est important, c'est que 90% des congés parentaux sont pris par des femmes. Et les femmes sont plus sujettes à des longues maladies pour une raison simple. C'est pas parce qu'elles sont plus fragiles, c'est qu'en général, elles sont sur les métiers les plus difficiles. Donc forcément, quand vous faites les métiers les plus difficiles, bah vous vous abîmez plus et donc vous êtes plus sujet aux longues maladies. Par exemple, je donne un exemple que j'ai noté. Une caissière, en moyenne, aura 2 années de longues maladies, dans sa carrière, et généralement pour des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Donc c'est vraiment le travail qui va l'abîmer. Sauf que de ces 2 ans, bah ils vont sauter de sa retraite. Vous voyez un petit peu
Ah oui. Voilà.
Alors évidemment, hein, je vous rassure, le monsieur de la CFDT et le monsieur de la CFTC, ils sont venus expliquer qu'en fait, il y avait des solutions. Ouais.
En même temps, pardon, je te coupe, mais en même temps, je me dis, pour la CFTC, des travailleurs chrétiens, que la femme soit responsable
fout,
de
hein.
tout, c'est normal, quoi. Alors, ça colle à leur idéologie de départ.
C'est pas faux. Je vous rappelle que c'est le seul syndicat qui avait signé contre le mariage pour tous aussi.
Voilà.
Donc, ils sont venus à la télé, hein. Moi, je les ai vus sur France Info. Alors, excusez-moi, je regarde France Info des fois, mais c'est intéressant, des fois, de voir les gens. Et ils sont venus, ils ont expliqué, ils ont dit, non, mais vous inquiétez pas, parce que déjà, il va y avoir des solutions, parce que bientôt, de toute façon, on n'aura plus de régime complémentaire de retraite. Je vous rappelle que ces régimes complémentaires vont disparaître à terme et vont être fondus en régime général. Mais surtout, ils disent c'est pas grave parce que nous, on a des solutions. Il faut ouvrir des percos. Et là, vous dites, c'est quoi un perco? Pour ceux qui en ont, ils savent, mais pour ceux qui en ont pas, ils savent pas. Et ben, le perco, c'est un plan d'épargne de retraite collective. Non, je vous rassure, c'est pas un truc coopératif dans l'économie sociale et solidaire. Hein. C'est un truc fait avec des actions par votre patron. Parce que le perco, c'est ça. C'est-à-dire votre patron, il ouvre des trucs d'action, ce qu'on appelle des fonds de pension, accessoirement. Et puis, ben, en fait, il met de l'argent pour vous de côté, puis vous en mettez aussi, parce que si vous en mettez pas, de toute façon, vous aurez rien à l'arrivée. Donc, vous êtes presque obligé d'en mettre. C'est-à-dire qu'on vous impose finalement d'en mettre. C'est assez logique. Et ce perco, ben, en fait, il va faire tourner les actions, généralement, ben, de votre boîte. Parce que ça va servir de fonds et de cash et de liquidité pour votre boîte, en fait. Donc, ça s'appelle de l'auto-exploitation. C'est merveilleux.
C'est beau. Formidable.
Et bien sûr, ils disent, non, mais si dans la boîte, vous n'avez pas de perco, hein, parce que j'ai écouté, c'est le monsieur de la CFT, c'est celui que j'ai déjà nommé, sur France Info, il disait, ouais, non, mais si c'est pas grave, hein, si vous n'en avez pas, il existe des plans de sauvegarde personnelle. Alors, j'ai cherché ce qu'était un plan de sauvegarde personnelle. Je me suis dit, mais c'est quoi ce mot? Parce qu'ils ont des mots bizarres, hein, les gens. Eh bien, un plan de sauvegarde personnelle, en fait, c'est un truc bancaire, hein, qui, en fait, c'est simplement que vous mettez de l'argent
de la thune
sur des codés vides, des trucs comme ça, et c'est toujours adossé au marché. C'est-à-dire, c'est jamais jamais un truc, c'est pas un livret A, quoi, vous voyez, c'est pas un truc où vous remplissez. C'est forcément un truc si, pour bah, toucher.
Pour nourrir la bête, quoi.
Et voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir deux syndicalistes quand même faire la promotion du capitalisme. C'était très intéressant. Donc, on voit bien que l'idée, c'est de passer une part importante de la solidarité au privé. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les caisses de retraite, je rappelle, ne sont pas privées. Elles sont paritaires. C'est une caisse. C'est-à-dire que c'est une caisse qu'on remplit et qu'on vide. Il n'y a pas de vocation à faire d'argent avec. Hein. C'est on remplit, on vide, on remplit, on vide. C'est les vases communicants. Et là, l'idée, bah, c'est de passer une grosse partie de tout ça au privé. On voit bien la logique. Alors moi, je le dis très clairement. Hein. Cette réforme, elle va concerner que les gens nés après 1963. Donc en fait, il y a plein de gens qui vont pas se sentir concernés, qui vont pas dire il faut aller se battre. Sauf que j'espère, messieurs, dames, que vous savez que vous avez des enfants et qu'ils travaillent en général, et puis qu'il y a des gens plus jeunes que vous. Donc en fait, il va falloir y aller. Et si on fait pas un mouvement à peu près comme celui de 95, si on bloque pas un petit peu le pays et si on bloque pas les choses, ça va passer comme une lettre à la poste, mais ça va être hyper violent parce que ça, en fait, on va pas le voir tout de suite. On va le voir dans 20 ans. Et en fait, c'est dans 20 ans qu'en fait, on va commencer à avoir les effets très, très violents de ce système-là. Parce que les 10 premières années, vous allez avoir ce qu'on appelle un effet mixte. C'est-à-dire des gens qui vont partir avec l'ancien système et des gens qui vont partir avec le nouveau. Et puis, il y aura ce qu'on appelle les compensations. C'est-à-dire qu'en fait, ben, dans les premières années, les employeurs, et on l'a vu notamment au Royaume-Uni, quand ils ont mis en place ces systèmes-là, parce que ça vient typiquement du Royaume-Uni, au départ, les employeurs, ils versaient obligatoirement. Ils avaient ce qu'on appelait des caisses obligatoires, des percos obligatoires. Donc les gens partaient, ils avaient une somme qui leur était versée. Et puis au bout de 5 ans, les employeurs, ils ont dit, bon, il y en a marre, on arrête les percos et les versements obligatoires, et les gens font bien ce qu'ils veulent, ils sont libres. Et à partir de ce moment-là, c'est là que ça commence à vraiment se casser la gueule. Et c'est comme ça qu'au Royaume-Uni, aujourd'hui, 33% des gens de plus de 65 ans travaillent encore. Voilà. C'est juste pour que vous ayez ce chiffre en tête. Et en Allemagne, vous êtes à 22%. Donc, vous voyez, là où on a mis en place du système par points, c'est ce que ça donne, quoi. Voilà, donc c'était mon moment, je vous réjouis, et c'était une bonne soirée dans la causerie. Non mais voilà, donc vous voyez ce qu'on craignait, ce que vraiment j'avais commencé à vous présenter, bah, finalement ça allait exactement dans le sens bah, qu'on redoutait le plus. Et malheureusement, je le dis, avec finalement l'aval des salariés, parce que c'est eux qui ont fait de la CFDT le premier syndicat de France. Et donc à un moment donné, bah, quand on se dit c'est pas grave, je vote, j'en ai rien à foutre, bah, il faut des fois réfléchir quand on décide de voter, parce que ça a un impact, et notamment celui-là en fait.
Mais voilà. En même temps, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi une modification en fait, du paysage salarial, on va dire.
Alors,
qui explique un peu...
Pas tant que ça, parce qu'en fait, on a la même modification qu'en Espagne, par exemple. On suit à peu près la même sociologie. Mais par contre, les syndicats espagnols dits révolutionnaires ou plutôt durs ont encore la cote. Je pense qu'il y a une double phénomène, je le dis franchement, hein. Je pense qu'il y a une erreur de la part des syndicats plutôt durs en France pour aller vers les salariés. Et ça, je pense qu'on paye le prix aujourd'hui. Et je pense aussi qu'il y a aussi une macronisation de la société qu'on refuse de voir. Je dis ça parce que Macron, on est un peu l'exemple, quoi. C'est-à-dire l'arrivée de ce mec qui arrive à 40 ans, qui devient président. Et je pense qu'on a sous-estimé, en fait, le fait que ça séduit des gens et ça les séduit vraiment. Par contre, il y a des syndicats qui ont vraiment surfé dessus, quoi. L'idée, en fait, de l'individualisation, c'est-à-dire que la société qui est de plus en plus individualiste, eh ben, en fait, finalement, quand on vend la retraite par points, c'est ce qu'on vend. On dit finalement, ton travail va te rapporter à toi.
Tu gagneras à la hauteur de ce que tu t'es investi et tout
c'est ça.
Tout ça, c'est nickel. Enfin, c'est un truc de vainqueur. Finalement, il n'y a que les vainqueurs qui arriveront.
C'est
les autres.
C'est ultra capitaliste.
S'ils perdent, ben, c'est un peu de leur faute.
C'est ça. Et je pense malheureusement que ce discours passe. Et c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu là-dessus qu'il va falloir travailler. Je parle pour les plus progressistes ou pour les gens qui ont encore envie d'avoir de la solidarité dans la retraite ou dans des choses comme ça. Je vous rappelle juste qu'il y a deux réformes qui se pointent pour 2020 et qui, moi, m'inquiètent beaucoup, c'est la Sécurité sociale et la CAF. Bah, quand on voit ce qui s'est fait sur les caisses de retraite, on imagine bien ce qui pourrait donner ces réformes demain. Et c'est pas anodin. Voilà.
Mais de toute façon, enfin, je pense que la France, un petit peu dans son... Alors, il n'y a pas de nationalisme là-dedans, c'est pas du tout ça. C'est que, en tout cas, dans le pays dans lequel on vit, en tout cas, je pense qu'il y a un système social, etc., qui est un peu particulier et qui, je pense, est un petit peu un îlot. Alors, au milieu de l'Europe
C'est un îlot, pas vraiment, parce qu'en fait la répartition, ça existe dans d'autres pays, hein, c'est pas propre à la France, et en fait c'est pas l'Europe qui impose ça.
C'est pas ça que je veux dire,
garder notre système, l'Europe elle s'en fout, hein.
Non, ce que je veux dire, c'est en Europe, sur le continent européen ou même dans le monde, j'en sais rien.
Les pays anglo-saxons, ils ont une culture plutôt individualiste, ça c'est clair. Les pays nordiques, c'est un mélange, il y a un peu de répartition, un peu de voilà, et après ça se balade selon un petit peu l'histoire des uns et des autres, quoi. Mais franchement, la problématique, enfin, moi je le dis franchement, c'est une vraie volonté locale, c'est une vraie volonté française. C'est voilà.
Oui, mais je.
Ça. Mais c'est aussi une vague internationale patronale qui veut.
Ouais,
plus
c'est
payer
ça que je veux dire. C'est
salariés.
Que là, quand même, je pense que oui, ils ont envie de récupérer encore plus de la part du gâteau que nous, on crée, en fait.
100 milliards par an. Hein.
C'est surtout ça qu'il ne faudrait pas oublier, en fait. Hein. C'est que les richesses de toutes ces personnes-là, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, en fait, qui les faisons.
Bah oui.
Ces gens-là, finalement, ne font que s'engraisser sur la masse. Laborieuse.
C'est ça. Mais il faut pas oublier surtout que la Sécu, tout mis bout à bout, c'est 100 milliards, quoi, et que ça fait envie.
Ah, bah ça fait un joli cadeau pour le privé. Quoi.
Un joli cadeau pour les patrons. Un peu de musique.
Allez.
Vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org pour ceux qui arrivent à nous capter sur radiocanu.org. Voilà. Alors donc du coup, c'était le groupe Skald avec Gleipnir. Alors je vais essayer de le dire bien. Gleipnir. Voilà. Alors, Skald, en fait, c'est un groupe français, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui a étudié le vieux norrois, qui était la viande. Pas du tout, c'était la langue des Vikings, en fait. Voilà. Et ils ont été assez passionnés par la culture des Skald. Les Skald, c'était un peu les bardes Vikings, en fait, qui racontaient, c'était ceux qui passaient les infos, qui les chantaient, et puis qui faisaient des chants chamaniques, un peu dans la transe, tout ça et tout. Voilà. Ils ont décidé d'en faire un album qui vient de sortir, et c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors après, ils ne nient pas, hein, il suffit de lire ce qu'ils écrivent, le fait que les Vikings n'étaient pas le peuple le plus sympathique de la Terre, mais ils n'étaient pas que des guerriers sanguinaires, contrairement à ce qu'on croit, et c'est assez vrai. Ils ont été surtout montrés du doigt comme ça par l'histoire, plus que par autre chose. Voilà. Donc c'est Skald.
Ok, pardon. Ok, et ben on va terminer avec un peu de culture.
Oui, de cinéma. Ah, je vous emmène au cinéma. Voilà. Et donc du coup, je voulais vous parler du film Edmond. Alors Edmond, c'est un film qui parle déjà, on va le dire tout de suite, d'Edmond Rostand. Alors Edmond Rostand, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le papa de Cyrano de Bergerac, hein, qu'il a écrit en 1897, de L'Aiglon en 1900 et de Chantecler en 1910. Voilà, c'est ses œuvres les plus connues. Et Edmond Rostand, en fait, il avait la particularité à l'époque d'être vu comme un néo-romantique et donc en fait surtout comme un provocateur, parce que je vous rappelle que dans L'Aiglon il a fait jouer une femme et qu'il jouait Napoléon II voilà, que dans Cyrano de Bergerac il a quand même affublé son comédien d'un nez immense, voilà, donc c'était vu comme un peu de la provocation. Donc Edmond, c'est un film d'Alexis Michalik, je ne sais pas comment cela se prononce, qui était l'auteur de la pièce du même nom. Et en fait pour moi c'est un film comme on aimerait en voir plus souvent au cinéma, et surtout dans le cinéma français, parce que c'est un film plein de belles idées qui sublime les choses et ne se pose pas comme autre chose d'être un immense hommage et divertissement au passage, et c'est un hommage au néo-romantique et au théâtre. Voilà. Donc Edmond, si vous allez au cinéma, c'est pour avoir un hommage au théâtre. C'est paradoxal, mais c'est super bien. Donc, en fait, ce film, c'est une mise en abîme dans un Paris du début du siècle dernier. Vous l'aurez compris, Edmond Rostand est né en 1868, hein, donc voilà. Et en fait, c'est le Paris un peu comme on le fantasme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le parti pris de recréer un Paris réaliste, il y a le parti pris de créer un Paris de conte, un petit peu, comme on le fantasme et comme on l'imaginerait dans cette période un peu année folle, un peu déjantée, du Paris du début du siècle dernier. On est avant la Première Guerre mondiale, hein, donc voilà, on sort de la guerre avec la Prusse et on est dans une période un petit peu, on est entre la paix et le retour à la guerre. Il y a un petit côté un peu étrange et une atmosphère, donc on vit à 200 à l'heure parce qu'il faut vivre vite, comme on disait à l'époque. Donc c'est assez intéressant. Il le rend très bien. D'ailleurs, le film est extrêmement rythmé. Enfin, vous démarrez et vous finissez le film, et en fait il s'est passé plein de trucs en très peu de temps, parce que le film est assez court, il fait 1h30, donc il est 1h40, pardon. Et donc il est assez court, mais il est bien speed, donc c'est assez intéressant parce que du coup ça enchaîne bien. Et donc c'est un vrai hommage en fait au théâtre, mais au théâtre dans tout ce qu'il a de beau et tout ce que j'aime moi au théâtre, c'est-à-dire les acteurs, les actrices, ceux qui écrivent le théâtre, comment on écrit en fait, comment on a l'idée d'écrire une pièce de théâtre, les excès des acteurs, des régisseurs, le régisseur un peu rude, mais qui est si gentil au fond. Enfin, il y a tout ça, il y a tout le théâtre tel qu'on l'aime en fait, et c'est vraiment vraiment impressionnant à voir parce que c'est super bien rendu et c'est pas facile de rendre le théâtre vivant au cinéma. Ça peut paraître bizarre, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. Et le réalisateur il arrive à filmer le théâtre, ce qui est à mon avis un sacré pari. Parce que contrairement à Cyrano de Bergerac qui était sorti il y a quelques années avec Depardieu, on n'est pas en train de vous filmer la pièce. C'est-à-dire qu'on ne refait pas la pièce en film. C'est pas du tout l'idée. C'est on filme comment la pièce a été inventée. Donc c'est vachement, vachement prenant. Alors il a fait appel à un casting et franchement il s'est pas planté, quoi. Moi je le dis franchement, j'ai été hyper surpris parce qu'il faut quand même arriver à tenir la pièce de bout en bout. Et il y a un petit acteur, je dis petit mais pas petit, mais grand, qui s'appelle Thomas Soliveres, que vous connaissez peut-être parce que vous l'avez peut-être vu dans Scène de ménage. Si vous regardez Scène de ménage, il faisait le scout.
Non, c'est un truc de la télé mainstream. On n'écoute pas ça. Ouais, bon,
pardon, mais voilà.
Donc, je plaisante.
Donc le scout, okay. avec les deux vieux, c'est aussi lui qui jouait dans plusieurs séries, plusieurs téléfilms récemment. Vous l'avez vu peut-être en Spirou aussi, parce qu'il était dans le Spirou et Fantasio. Ça, ouais. C'est lui qui faisait Spirou. Voilà. Et en fait, cet acteur, il est juste génial, moi je le dis franchement. J'ai eu la chance de le découvrir sur scène au Radion il y a quelques temps de ça, dans une pièce qui n'était pas terrible, mais que lui arrivait à rendre super bien, parce que justement il a une énergie, mais il vous emmène avec lui et c'est assez fou. Et ben là il joue un Edmond Rostand Bah, juste merveilleux. Pourtant, Edmond Rostand était neurasthénique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait un petit peu des problèmes, des fois, ouh là là, mais il était un peu fou. Donc c'est dingue, c'est assez marrant parce qu'il arrive à vous rendre ce personnage peureux, sympathique, flippé, mais cool, amoureux de l'art, mais pas que. Donc voilà, et c'est super bien parce que vraiment, il vous l'emmène tout le long du film. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il est de toutes les scènes. Donc il ne faut vraiment pas se planter d'acteur principal quand vous faites un film comme ça. Et là, bingo, vraiment très bon. On a ensuite Olivier Gourmet. Alors Olivier Gourmet, vous devez le connaître parce que c'est un acteur qui fait du théâtre et du cinéma et qui est assez connu. Et lui, il joue Constant Coquelin. Et Constant Coquelin, il a vraiment existé. C'est le premier acteur qui a joué Cyrano de Bergerac. Et il avait une réputation comme acteur d'être un acteur fantasque, grande gueule et surtout détesté de la comédie française. C'est important parce que c'est un acteur qui refusait de rentrer dans les codes de la comédie française. Et donc, il se heurtait régulièrement avec la comédie française. Et il vous le représente. Et justement, vous allez comprendre dans ce film, même si beaucoup de choses sont inventées, il n'y a aucun problème, mais il essaie de vous montrer les antagonismes en fait entre ce qu'est le théâtre et ce qu'est le théâtre normé. Ouais. Et voilà, les deux institutionnelles, ouais. Voilà. Et c'est vraiment intéressant de voir en fait les deux facettes du théâtre et du monde du théâtre et puis leur petite bataille. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Coquelin, en fait, alors ça par contre, a priori historiquement, c'est vrai, il aurait commandé la pièce à Edmond Rostand 3 semaines avant de la jouer. C'est-à-dire qu'il a rencontré Edmond Rostand, il lui a dit écoutez, il me faut une pièce. J'adore ce que vous faites, vous écrivez en vers, donc c'est génial parce que j'adore les romantiques, donc d'où les néo-romantiques, et je veux une pièce avec un truc flamboyant et un mec qui a la patate. Voilà. Et ben, c'est comme ça qu'est né Cyrano de Bergerac.
En trois semaines,
a priori. Ça, par contre, c'est vrai, a priori, hein, wow. Historiquement. C'est vachement balèze. Donc, il y a Mathilde Seigné aussi qui incarne Maria Legault. Et Maria Legault, pour les gens qui aiment le théâtre, ce qui est un peu mon cas, et qui ont visité le cimetière du Père Lachaise, elle est enterrée au Père Lachaise. Et elle est enterrée, il y a son buste. Et c'est assez connu comme tombe. Il y a son buste et en bas, il y a écrit pour la comédie et pour l'art. Et en fait, c'est juste magnifique. C'était une des plus grandes actrices de l'époque. Elle est morte, malheureusement, au cours d'une opération parce qu'elle était tombée, elle s'était fracturée chose et elle est décédée, parce qu'on est dans une époque où on mourait régulièrement d'une opération. Et c'est l'une des plus grandes actrices de l'époque, et vraiment, elle avait un caractère, ça par contre, tous les gens qui parlent d'elle, un caractère de cochon, on va dire ça comme ça, et c'est dans le film très bien rendu, hein. Alors là, il n'y a pas de problème. Et de la même façon, le caractère fantasque d'une Sarah Bernard, que vous allez croiser dans le film, jouée par Clémentine Sélarié, est superbement rendu aussi. Je vous rappelle Sarah Bernard, la première femme libre du théâtre, comme elle se le disait elle-même, et c'est pas totalement faux, amie de gens comme La Goulue ou des choses comme ça, et qui a fini sa vie sur l'île de Belle-Île, en rachetant un fort parce qu'elle en avait marre de ses contemporains qui avaient osé faire la guerre et tomber dans la haine alors que la vie vaut le coup d'être vécue. Donc voilà.
Donc, non, attends, pour fêter ça, elle allait s'isoler sur une île, quoi.
Non, justement, elle n'a pas fêté ça, elle s'est isolée parce qu'elle supportait plus ses contemporains à la fin. Donc Léo, qui est l'ami du comédien Rostand dans le film, est joué par un Tom Leb, qui est le fils de Leb, de Michel Leb, mais qui est un très bon acteur, meilleur que son père, hein. Et qui joue avec beaucoup de cabotinage, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on lui demande. Et pour moi, la révélation du film, c'est Lucie Boujna. Qui est vraiment
fille d'eux aussi,
nièce d'eux, okay. Et qui justement crève l'écran, et c'est très intéressant de voir qu'elle est utilisée justement comme est Roxane dans la pièce Cyrano de Bergerac, et ça c'est assez génial parce que du coup il y a une sorte de parallèle qui s'installe. Enfin, découvrez le film, voilà. Et donc pour moi, l'intérêt du film, le cœur du film vraiment, c'est de vous faire aimer la littérature, le théâtre, mais surtout pas le théâtre chiant, mais le théâtre bien écrit et beau. Et non, mais c'est pas chiant, vraiment.
Tu sais, c'est très subjectif.
Ouais, je sais, mais voilà. mais je suis un grand fan d'Edmond Rostand. Alors. pour moi, Edmond Rostand, c'est un des auteurs les plus intéressants, les plus intenses de son époque, parce qu'il arrivait à mettre dans ses écrits... Il y a beaucoup de sous-textes, il y a beaucoup d'humour, malgré le fait qu'il parle de choses pas très drôles. Pour ceux qui ont vu Cyrano de Bergerac, qui connaissent, c'est pas drôle. Cyrano de Bergerac, en fait, c'est triste. C'est un amour impossible de deux personnes. C'est un amour perdu. C'est une guerre, parce qu'il raconte la guerre dans Cyrano de Bergerac. C'est tout ça. Et pourtant, quand vous voyez Cyrano, tout le monde se rappelle de la tirade du nez. Et parce qu'elle est merveilleuse, elle est magnifique. Et surtout, Cyrano, c'est quoi? C'est une ode aux gens qui sont pas comme tout le monde. Et c'est une ode à ce que les gens qui sont pas comme tout le monde arrêtent de baisser la tête, la relève. Et à la fin de l'envoi, il touche, comme dirait Cyrano. C'est l'idée de se battre et de ne pas rester dans son coin. même si parfois on est obligé. C'est un peu le paradoxe de cette pièce. C'est mon mot en ce moment, paradoxe. Donc c'est avec fougue en fait que Michalik porte à l'écran son amour du théâtre, vraiment, des textes et des acteurs. On sent que c'est un amoureux du théâtre, un amoureux des textes. Il offre une vision optimiste et belle de la création, de la vie. Il se joue de nous en nous faisant croiser dans son film plusieurs grandes figures de l'époque dans des situations improbables. Moi, je retiens, aller voir le film juste pour voir la scène avec Tchekhov. Ça va, moi, j'ai juste adoré cette scène. Et donc, en fait, il nous emmène dans un Paris fantasmé, certes, mais celui dont on rêve et qui nous fait rêver. Ce Paris des lumières, comme on disait à une époque, ou cette Paris lumineux. Donc, moi, je vous le dis, courez voir le film. Il est toujours à l'affiche. Ça s'appelle Edmond. Vous ne perdrez pas votre temps. Vous en sortirez normalement avec le sourire. Et moi, j'ai pas forcément aimé Amélie Poulain. Il paraît que ça fait le même effet qu'Amélie Poulain, mais je suis pas d'accord parce que moi, ça m'a pas fait un très bon effet, Amélie Poulain.
Donc, le réalisateur, il vient du théâtre.
Il vient du théâtre, ouais. Et ça se sent. Et en fait, il y a une vraie connexion, et c'est super intéressant de voir ça. Il y a beaucoup d'acteurs d'ailleurs qui jouent, qui sont du théâtre aussi. Je vous rappelle quand même que Mathilde Seigné comme Clémentine Cellari font une carrière théâtrale énorme. J'ai perdu son nom. Je vais revenir sur son nom. Olivier Gourmet, pardon. Voilà, qui joue, voilà, il est aussi étudiant de théâtre, et ça se sent, mais du coup c'est beau parce que c'est,
oui, oui,
c'est
non, mais enfin, oui.
Et moi je vous le dis, vous allez sortir de ce film et la première chose que vous aurez envie de faire, c'est d'aller au théâtre.
D'accord.
Voilà. Donc allez voir Edmond, il est toujours à l'affiche. Et si par exemple vous voulez pas aller voir ça dans une grosse salle, bah, je peux vous dire qu'il est au Zola. En ce moment, il est programmé au Zola, à Villeurbanne. Voilà.
Petit Cinoche.
Petit Cinoche, et c'est à Flachet, donc c'est pas très dur à trouver. Il y a le métro juste à côté. Voilà.
Musique.
Tu te donnes l'air. Et Jean Moulin dans tes valises. La résistance a le corps nu. Pour ceux qui possèdent, pour ceux qui possèdent.
Toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canu. Et après Benjamin Biolay qui chantait Lyon. Et bien voilà, Pandore, donc, qu'on avait reçu à l'époque quand il s'appelait encore Névrose.
Et c'est pas tout à fait le même style.
Mais non, je plaisante, c'était juste pour faire la vanne parce que je trouvais ça drôle. Mais je peux être le seul, c'est pas grave. Donc Pandore qui nous chantait Lyon. Oui. Et c'est issu de son très bon album, son EP, ou je ne sais pas comment on appelle ça.
Non, mais c'est un album, moi, je trouve.
Que ouais. J'aime beaucoup. Et bien.
Et s'il veut revenir à la causerie, c'est quand il veut.
C'est ça. Et bien, passons aux brèves. La première, c'est toute la semaine, ce sont les permanences, enfin c'est la permanence d'aide aux travailleurs sans papier qui a donc lieu, comme je vous le disais, tous les jours de 10h à midi à l'Union départementale CGT qui est toujours au 215 cours Lafayette dans le 6e arrondissement.
Et lundi 28 janvier 2019, c'est aussi une permanence juridique de soutien aux sans-papiers mais plus large, pas qu'aux travailleurs et à leurs proches. C'est de 18h30 à 20h à la Lutine au 91 rue Montesquieu dans le 7e.
On passe au mardi 29, pardon. L'année 2019 commence en beauté au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, puisque désormais, l'hôpital ne fournit plus de savon, gel douche et rasoir aux unités de soins pour les patients et patientes. Le Père Noël a été bien radin cette année, puisqu'une fois de plus, ses économies de bout de chandelle ne sont pas justifiées, l'hôpital n'étant pas en déficit. Invitons-nous au vœu de l'ARS. HM.
Association régionale des hôpitaux, je crois, quelque chose comme ça.
Ok. Le mardi 29 janvier, à partir de 18h, au musée Jean Couty, c'est au 1 de la place Henri Barbus Saint-Rambert, dans le 9e arrondissement de Lyon, et c'est cet appel est issu de la CGT.
Sinon, hébergement populaire des réfugiés, alternative, choix de société ou soupape. Eh bien, c'est la causerie des clameurs, voilà. Et donc, c'est son invité, Terre d'ancrage, jamais sans toit, et des occupants et occupantes sans droit ni titre. Donc, ce jour-là, c'est la causerie aux clameurs. C'est au 23 rue d'Aguesso, dans le 7e, le mardi 29, de 18h30 à 23h.
On peut rappeler, les clameurs, c'est un bar associatif.
C'est un bar fédératif.
Et l'autre news du... La dernière news du mardi 29 janvier, c'est comme chaque année, le pape 40 et le cardinal AAA de l'église de la très sainte consommation récompensent les serviteurs zélés de la sainte croissance et du grand capital en leur remettant cette statuette en or tant convoitée. Le doigt d'or. En présence de Pierre-Emmanuel Barré et Émeric Lomprey, la cérémonie aura lieu le mardi 29 janvier à Lyon à 20h au Palais de la Mutualité. Les réservations, ça se passe via le site Hello Asso, dans lequel il faut, dans l'onglet recherche, vous tapez donc...
Sixième,
on ne sait pas quoi.
cérémonie des doigts d'or.
Voilà, cérémonie des doigts d'or. Voilà pour le mardi 29.
C'est pas très logique alors, truc.
Non, c'est pas très clair.
Alors, mardi 30 janvier 2019, il y a un ciné-débat eau et agriculture. Alors que la sécheresse a durement frappé de nombreuses fermes cet été encore, se pose la question de l'usage de l'eau en agriculture. Quels sont les besoins en eau selon les types d'agriculture? Quelles sont les pratiques agricoles vertueuses pour la qualité de l'eau? C'est l'association Les Amis amis de la Confédération Paysanne qui vous invite à venir en discuter. Ça se passe à La Balise 46 à la MJC de Villeurbanne, 46 cours Jean d'Amido, 6900 Villeurbanne, 19h. C'est l'occasion de vous dire que La Balise 46 qui a ouvert cette année est très active et c'est très intéressant.
Le jeudi 31, c'est une projection débat, c'est une tournée dans la neige. Le 15 février 2013, Pauline, une jeune factrice intérimaire de 21 ans, s'est suicidée après une dernière tournée dans la neige. Sur le chemin de cette tournée, véritable image du cycle de la vie, viennent se croiser des luttes et les renoncements de ceux qui ont ou auraient pu connaître Pauline. Syndicaliste en lutte, postier heureux ou malheureux, fermiers enclavés dans leur territoire de solitude, aux responsables de la poste convaincus de leur mission. Un film poétique et politique sur notre temps présent. Et c'est aussi à La Balise 46, donc à la MJC de Villeurbanne, toujours à Villeurbanne, au 46, cours Jean d'Amido. Et c'est à 19h, donc, le jeudi 31 janvier.
Et le vendredi 1er février à Hauteville, alors c'est pas à côté à Hauteville, hein, il y a une rencontre, discussion, concert autour de la revue Nunatak. C'est donc au centre social Les 7 lieux à Hauteville, Lompnes, je ne sais pas comment ça dit, dans le budget, pardon. C'est une rencontre-discussion autour de la revue avec, voilà, il y a un repas partagé après, un concert de Baby Bay qui est du Country Gospel Crooner de Lyon. Voilà, c'est à 19h. Centre social Les 7 lieux, 1 place du docteur Le Tacon, 01 110 Hauteville, Lompnes.
Et tu avais dit que la revue, c'était revue d'histoire, culture.
Ah oui, pardon, c'est une revue d'histoire, culture et lutte des montagnes.
Ça peut aider à comprendre ce qu'est ce magazine. On passe au samedi 2 février, donc les syndicats FO et CGT appellent assistantes maternelles et salariés du particulier employeur à se mobiliser massivement le samedi 2 février 2019 entre 10h et midi. C'est un appel national et à Lyon, ça aura lieu sur la place Bellecour, donc samedi 2 février.
Voilà, et c'est contre la réforme des retraites.
Yes.
Voilà, dont on parlait au début de l'émission, ça tombe bien.
Oui, et là, oui, assistante maternelle et salariée du privé.
Ça va être les plus touchés.
C'est ça, des précaires qu'on appelle.
Quelle lutte dans nos montagnes ? Bis repetita. Présentation débat autour de la revue Nunatak. Et donc là, par contre, c'est le collectif Nina, ni ici, ni ailleurs de Lyon, contre les Center Park, qui vous invite à une présentation débat autour de la revue. Vous aurez compris que la revue fait une petite tournée dans la région. Sur les cultures et les luttes de montagne. Alors là, cette fois-ci, c'est moins loin. C'est rendez-vous le 2 février à 15h, de 15h à 19h, au Jusqu'ici, 169 Grande Rue de la Guillotière, dans le 7e.
Et on termine.
Vas-y. Et aussi une projection discussion le même jour sur les luttes contre la tôle. Donc c'est le 2 février, hein, pareil, c'est l'émission La Petite Cuillère qui est sur Radio Canu, je crois tous les jeudis, il me semble, à 20h. Voilà, c'est une émission contre toutes les prisons qui vous invite à une projection puis une discussion autour du documentaire Ils nous ont volé nos nuits. C'est à l'atelier des Canulars et c'est à 15h30. Donc vous ne pourrez pas être aux deux. Il faudra choisir. Voilà.
C'est ça.
Eh bien, c'est à peu près tout, sauf que la semaine prochaine, si tout va bien, dans la causerie, on espère, parce que normalement c'est calé, hein, donc voilà, nous recevrons une école. Mais une école pas comme les autres, avec un chat noir qui est très énervé.
Non, voilà. Il n'est pas très énervé, il est très pédagogique.
Oui, mais il est un petit peu vénère quand même.
Oui, c'est normal.
Enfin, elle d'ailleurs.
Elle, c'est une chatte.
Voilà. Donc voilà. Ce sera
l'école du chat noir.
Une petite surprise.
C'est ça. Eh bien, on vous souhaite une bonne semaine et on se quitte en musique avec...
Alors, on se quitte avec un titre que j'adore, qui est de Juliette Gréco et qui s'appelle Les Imbéciles et qui n'a pas pris une ride, malgré le fait qu'il est sorti dans les années 60.
Eh bien, allons-y. Bonne soirée, bonne semaine.
Bonne soirée, des bisous, à la semaine prochaine.
L'imbécile de bonne souche mesure 6 pieds d'hauteur. Il peut exprimer par la bouche le plaisir comme la douleur. Il peut exprimer par la bouche le plaisir comme la douleur. N'ayant ni plume ni pelage contre la froidure et le vent, il couvre son corps de lainage qu'il appelle des vêtements. Il couvre son corps de lainage qu'il appelle des vêtements. Selon le très ancien grimoire, la peste en a tué beaucoup. Il se reproduit sans histoire de la même façon que nous. Il se reproduit sans histoire de la même façon que nous. Il existe des imbéciles de toutes sortes, évidemment. On en rencontre dans les villes, à la campagne également. On en rencontre dans les villes, à la campagne également. Dieu vous préserve de sa rage, si vous le blessez par hasard. Il est terrible quand il charge, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Il est terrible quand il charge, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Car à l'encontre des panthères, dont ils ont la férocité, les imbéciles sur la terre vont et viennent en liberté. Les imbéciles sur la terre vont et viennent en liberté. Les imbéciles ont des femmes, et leurs femmes ont des amants, ce qui provoque bien des drames, comme chez l'homme exactement. Ce qui provoque bien des drames, comme chez l'homme exactement. Il en est qui font des affaires et qui se déchirent entre eux. D'autres qui rêvent solitaires, ce sont les imbéciles heureux. D'autres qui rêvent solitaires, la 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 la. Que chacun de vous se rassure, car si ce monstre fut légion, je vous dois la vérité pure, il n'y en a plus dans la région. Je vous dois la vérité pure, il n'y en a plus dans la région.